Vous êtes sur RTL.
On va essayer d'avoir des témoignages de la boule parce que c'est formidable. La baie de la boule sous la neige, c'est vrai que ça n'arrive jamais, c'est très rare sur le littoral. Si vous êtes baulois, appelez-nous la boule sous la neige. Et je vous envie si vous êtes baulois surtout, parce que ça doit être merveilleux. Alexandre, le reconfinement, vous habitez-vous la Moselle ?
J'habite la Moselle, nous sommes en couvre-feu depuis début janvier à 18h. Les chiffres montent toujours, donc je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et je vois bien, travaillant en réanimation, les âges des personnes qu'il y a dans les lits. Mmh. Et comme je vous avais dit il y a 3 mois, quand je vous avais déjà eu une fois au téléphone, tant qu'on n'aura pas fait une campagne insistant bien sur les personnes âgées de plus de 65 ans, on changera rien. On ne changera rien, Pascal.
Mais vous n'avez pas le sentiment quand même que ces gens qui ont plus de 65 ans aujourd'hui, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont contaminés, oui, si j'ose dire, par le climat actuel, ils font davantage attention.
Mais je suis d'accord avec vous, Pascal, mais je dis pas que 100% des gens ne font pas attention, sinon on aurait 100 000 personnes en réanimation. Mais je dis qu'il y a quand même quelques personnes, comme je rentre de l'hôpital par exemple, je vous donne un exemple. Je rentre de l'hôpital, je vois mes voisins qui ont 75 ans, qui mangent avec leurs amis.
Ouais, oui,
donc,
mais
c'est des petites choses comme ça.
Ah bah non, c'est pas des petites choses, là,
mais vous multipliez ça par les 10% de la population de cette génération-là, automatiquement.
Mais oui, mais aussi, ils ont envie de vivre. Moi, je connais des gens
de
85 et 87 ans qui voient leurs petits-enfants régulièrement parce qu'ils veulent pas rester chez eux et qu'ils ont envie de vivre. Et je l'entends aussi.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus.
Donc ils se mettent en danger, alors ils ont des masques, gestes barrières, mais ils font effectivement peut-être ce qu'il ne faut pas faire.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus.
Mais parlez-moi de votre fille, parce que ça m'intéresse. Elle a 16 ans.
Elle a 16 ans, elle est en première, en section handball, vous savez, donc c'est pour... en plus de l'école, ils font beaucoup de handball, donc ils ne peuvent pas jouer. Et elle est interne, et donc bien sûr, depuis, ils ne peuvent plus faire leur sport.
Et enfin, c'est invraisemblable, ça. Pourquoi on peut pas jouer en handball?
Non, on peut plus jouer au handball, on peut plus. Alors que toute cette catégorie d'âge-là, elles l'ont déjà eu. Le Covid, ma fille l'a eu, elle n'a rien eu du tout. Moi, je l'ai eu aussi, je n'ai rien eu, comme 95% des gens.
Oui, surtout cette population très jeune.
Et ce qui se passe, c'est que là, elle vient de m'apprendre qu'une de ses copines, elle est sous anxiolytique, antidépresseur, elle est suivie par un psy. Et j'ai peur que ça lui arrive aussi. Vous comprenez bien, en tant que père de famille.
Ça faudrait vraiment. L'histoire du sport,
c'est une honte.
J'ose pas dire ce mot-là, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ils sont combien dans la section handball, puisqu'elle c'est une sanction sport-études sans doute.
Elle doit être 17.
C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ces 17 ne jouent qu'ensemble, que jamais il y ait d'autres personnes qui viennent jouer avec elles, qu'elles soient toutes testées, ces 17 personnes, et qu'elles jouent au handball, quoi.
Mais surtout que la majorité l'ont déjà eu, en plus.
Quand est-ce la dernière fois qu'elles ont joué sur un terrain?
La dernière fois, c'était au mois de décembre. Elles ont pu rejouer avec leur club à Metz. Elles ont pu rejouer, elles ont juste s'entraîner. Et donc, on a fini par la galette des rois un petit peu en avance. Et là, je vois, quand elle me dit qu'une de ses copines qui a 16 ans est sous anxiolytique antidépresseur, vous savez, quand on rentre dans la psychiatrie à 16 ans, on en a pour toute sa vie en général.
Bien sûr, c'est-à-dire que avec cette population, je rappelle que c'était une stat qui a une dizaine de jours, de 1 à 44 ans, il y a eu 60 morts en France du Covid. 60
je
morts.
Je le sais.
Donc sur une population jeune comme celle de votre fille, si tu fais des tests tous les 2 jours, tous les 3 jours, pourquoi pas? Et que tu rentres sur un terrain et que les 17 sont testés négatifs, sans doute on est à zéro risque. Et c'est ça qui est terrible. Le sport, de toute façon, je trouve que c'est le parent pauvre de cette épidémie. On envoie les gosses en permanence le week-end devant des écrans. C'est vraiment pas convenable.
Mais c'est une honte. Vous savez, hier, elles ont voulu manger un sandwich entre midi. Donc chez nous, il fait moins 10 en ce moment, dans l'Est, dans le Grand Est.
Quand même.
Le matin. Donc à midi, il devait faire moins 5. Elles se sont dit, on va les manger dans le parking souterrain. Le vigile les a virées. Donc elles ont dû manger d'or. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'elles n'en peuvent plus, quoi.
Mais oui,
elles n'en peuvent plus. Et moi qui suis infirmier en réanimation, je vois les âges des gens. Ma femme est directrice d'une maison de retraite. Les gens qui ont eu le Covid dans la maison de retraite, il faut bien vous dire que c'était des gens qui étaient en fin de vie. C'est malheureux de dire ça.
Je sais.
C'est pas le côté de la mort, mais c'est une vérité. Vous savez, Quand je vois tous les intervenants qui à la télé, tous les médecins qui ont 75 ans, qui sont contre le fait d'isoler les personnes âgées, mais c'est pas les punir, c'est les protéger. C'est ça qu'il faudrait comme message. C'est les protéger. Vous savez, moi j'ai insisté avec mes parents pour pas qu'ils voient leurs amis ou quoi que ce soit, parce que j'ai envie de les voir, je les aime. Et les aimer, pour moi, c'est de leur dire des choses, des vérités. Mais là, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire.
Ben merci Alexandre et merci pour ce témoignage. Elle s'appelle comment votre fille ?
Lola.
Lola.
Je voulais juste vous dire une petite dernière chose, parce que c'est toujours le confinement par rapport aux hospitalisations, bien sûr, qu'on confine, si vous êtes d'accord avec moi. Et je voulais savoir, en France, parce que je ne travaille pas en France, moi, si les cliniques privées étaient sollicitées.
A priori, parce ça ne fonctionne pas trop mal. Mais ce qu'on nous dit, mais c'est assez... moi aussi, j'ai un doute pour tout vous dire. Mais...
J'ai réellement un doute. Vous savez, j'ai travaillé en France il y a des années. J'étais infirmier sapeur-pompier pendant des années. Et j'ai toujours vu la guerre entre le public et le privé. Et d'ailleurs, c'est simple, sur tous les plateaux télé, il n'y a jamais un médecin du privé.
Oui, mais celui qui gère les cliniques privées, dont j'oublie le nom à l'instant, à chaque fois que je lui demande précisément des précisions, il me dit que tout va bien. Donc, on peut pas monter au créneau, alors que lui trouve que c'est Lamine Garbi, qui est le président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée en France. Lamine Garbi. Et effectivement, lui, il dit tout va bien. Donc, si lui dit tout va bien, je peux pas aller contre ce qu'il dit lui. Et qu'a priori les ARS fonctionnent plutôt bien dans chaque département. Les agences régionales de santé organisent une communication entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Merci en tout cas, merci, beaucoup,
merci
Alexandre. Et je rappelle d'ailleurs Tomber la neige de Adamo devrait faire son apparition très rapidement, parce que je rappelle que si vous habitez La Baule, la plus belle plage d'Europe, 9 km de sable fin, eh bien sur ces 9 km aujourd'hui, il y a 9 km de neige, ce qui n'arrive jamais. Sur le littoral, il n'y a pas de neige, sauf aujourd'hui, ça arrive une fois tous les 30 ans. Donc si vous habitez La Baule, appelez-nous.
Tombe la neige.
Et voilà, tombe la neige. Une vierge passe ce soir. Bonjour Greg Caranoni.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Vous
pour mettre tombe la neige, moi c'est...
A tout de suite, on va parler Parange. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce nom qui pourrait arriver dans le dictionnaire.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, c'est pas un sujet forcément très gai, Laurent Tessier, mais c'est vrai que quand on a perdu ses parents, on est orphelin. Quand on a perdu son conjoint, on est veuf ou veuve. Mais il n'y a pas de mot pour ceux qui ont perdu un enfant. Et le mot parange, P-A-R-A-N-G-E, parange, des députés proposent qu'il entre dans le dictionnaire. L'Académie française, je ne sais pas ce qu'elle en pense d'ailleurs. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Parange qui est la contraction de parents et ange. Et vous pourrez évidemment nous appeler dès maintenant au standard pour pouvoir réagir et nous donner votre avis sur cette question et ce sujet. On revient au sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. La France peut-elle passer l'hiver sans confinement ? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est voulu confiant hier.
Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe. Et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Peut-on éviter un reconfinement ? Le gouvernement a-t-il raison de tenir face à certains scientifiques ? Eh bien, pour José, sur la page Facebook de l'émission, il faut surtout que nos médecins et autres spécialistes arrêtent de nous faire peur sans cesse. Nous subissons une forme de confinement, dénonce de son côté Christiane, un télétravail. Aller chercher les enfants à l'école, s'enfermer jusqu'au lendemain. Pas de cinéma, pas de restaurant, pas de théâtre. Karine espère que le gouvernement tiendra face aux propos de certains scientifiques. Non, je ne veux pas un retour du reconfinement. C'est bon, on a donné, on est suffisamment sérieux. Et que faites-vous de tous les variants ? Bah, régie à l'instant, Jacqueline sur nos réseaux sociaux. On joue avec le feu en ce moment, je préfère écouter nos médecins. Alors Emmanuel Macron, écoutez-les attentivement.
Moi, je préfère écouter Adamo. Le reconfinement, c'est la journée d'ailleurs la plus froide de l'année, quoi, de la semaine, donc de l'année. Nous sommes d'accord, parce que ce matin, il y avait près de moins 5 à Paris, donc c'est quand même assez rare.
Sauf s'il fait plus froid dans les jours à venir.
Eh bien,
mais ça, nous ne sommes pas voyants, bien sûr.
Par définition, ami. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la journée la plus froide de l'année.
Tout à fait.
Mais comme on est déjà le 11 février, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Sœur Andrée, 117 ans.
La doyenne française.
La doyenne française et la vice-doyenne de l'humanité. 117 ans, donc J'allais dire on l'embrasse, mais en tout cas on lui souhaite un bon anniversaire. Pascal est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Sur le reconfinement.
Oui, sur le reconfinement, écoutez, moi je suis très heureux de la décision de notre président, à savoir de ne pas nous avoir confinés. Et puis maintenant, après, écoutez, on va croiser aussi les doigts pour faire un pied de nez, je dirais aussi à tous ces diafoirus russes qui nous ont annoncé la catastrophe depuis le départ.
Diafoirus qui était un médecin de Molière. Je crois que c'est dans le malade imaginaire, Diafoirus.
C'est dans le malade, oui.
Voilà. Donc je précise pour la jeune génération qui nous écoute, qui ne sait pas forcément qui était Diafoirus. Oui. C'est des frères en plus, Diafoirus, je crois, dans la pièce.
Tout à fait. Bon, je suis un petit peu méchant, j'égratigne, mais bon, c'est vrai que des fois, moi j'en ai marre depuis un an, mais des fois d'entendre... Voilà, c'est ces médecins qui noircissent toujours le tableau, quoi. Puis là, on rajoute de la peur à la peur, parce que maintenant on nous parle des variants. Mais c'est la vie des virus et du coronavirus. Il existe quand même depuis 2002. On l'a isolé depuis 2002, ce coronavirus.
D'accord ? Comment ça, ce coronavirus est isolé depuis 2002 ?
C'était le SARS-CoV, on l'appelait le SARS-CoV, d'accord ? C'est le SARS-CoV-1, d'accord ? Donc il a été isolé en 2002 en Chine, dans la région de Guangdong, et puis ensuite il y a eu aussi une variante en 2012, qui était le MERS. On appelait le MERS en 2012. Et là il sévissait plus dans la péninsule arabique, d'accord ? Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça, d'accord ? C'est ça qui m'affole. Enfin, les infectiologues le savent très bien, les virologues. Encore une fois, ça fait 19 ans que le SARS-CoV a été isolé. Alors là, on a parlé du SARS-CoV-2 au départ.
Il a été identifié en janvier 2020, le SARS-CoV-2.
Oui, le SARS-CoV-2.
Parce que
oui,
je vérifie en même temps ce que vous me dites.
Tout à fait. Oui. Alors regardez, le SARS-CoV-1 a été isolé en 2002, d'accord ? Voilà, si vous regardez, vous verrez. Donc c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau quand même, c'est l'épidémie, parce que le SARS-CoV-1, manifestement, il n'avait pas été très très virulent.
On lui attribuait quand même, alors plutôt au MERS, on lui attribuait une létalité, tenez-vous bien, de 30% à l'époque. Donc on en est bien loin aujourd'hui avec le SARS-CoV-2. Donc vous voyez, il faut relativiser les choses.
Bon, qu'est-ce que vous voulez dire, Pascal, qu'il ne faut pas reconfiner ?
Voilà, tout à fait. Et laisser vivre les gens tranquillement. Enfin, attention, protéger évidemment les personnes à haut risque. Je suis pas idiot, avoir toujours ces gestes protecteurs et pas des gestes barrières, des gestes protecteurs. Excusez-moi. Mais les mots ont un sens et ça m'exaspère d'entendre les gestes barrières. Au lieu de diviser, il faut rapprocher et donc parler de gestes protecteurs. Vous savez, Camus disait, mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur à ce monde. Donc, parler de gestes protecteurs et pas de gestes barrières, excusez-moi. Voilà.
Merci.
Ça, pour moi, son importance.
On peut vous rejoindre d'ailleurs sur ce souhait, évidemment, Pascal.
Voilà. Bon.
Eh bien, merci, vraiment, merci beaucoup. On va faire un petit tour par la boule, parce qu'on demandait un Baulois, c'est un Baulois qui a un certain âge, donc il doit être un témoin de ce qui se passe à la boule et cette neige-là qui est sur la plage aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour. À la boule, 5 cm de neige.
Non.
Si.
Mais vous habitez où dans la boule ?
Centre-ville, à 150 mètres de la plage.
Donc plutôt du côté de l'avenue du Général de Gaulle.
Et exact, derrière la poste.
Derrière la poste, bien sûr. Vous êtes allé sur la plage ?
Non, mais on va y aller cet après-midi, parce que je voudrais voir ça. La dernière fois, c'était en 1986, donc c'est pas tous les jours.
Et tout est blanc ?
Ah oui, tout est blanc. Ce matin, mon fils qui travaille, j'ai dû lui mettre des chaînes pour qu'il reparte chez lui.
Et ce n'est pas arrivé, on le dit, depuis 1986, et on se souvient effectivement de cet hiver particulièrement neigeux, en 86, où il avait neigé en France. C'était quand même il y a 35 ans, donc c'est la deuxième fois, peut-être, de votre existence.
Pas la deuxième fois, parce que j'ai un souvenir quand j'avais 7-8 ans, donc dans les années 58, par là, où il y avait beaucoup de neige, et j'avais fait des bonhommes de neige dans le jardin. Je me souviens, parce que je suis né à la Baule, donc je me souviens même de ça.
Quel heureux homme. Vous êtes né à la Baule, et vous avez vécu à la Baule toute votre vie ?
Oui, c'est exact.
Oh, dites non, ça vous avez de la chance. Je vous envie, cher Michel. Bon, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Donc vous allez sur la plage avec votre épouse?
Balade sur la plage, bien sûr, sans problème. Et se promener dans les rues de la Baule parmi les villas sous la neige, ça va être super.
Vous allez prendre des photos?
Ah bah j'espère, oui, qu'on va prendre des photos.
Bon, et ça tient?
Oui, il s'est arrêté de neiger il y a environ une petite heure. Mmh. Et par contre, il fait toujours 0 degré ici, donc je pense que ça va rester.
Ce qui est fou, c'est que le président de la République est à Nantes, donc exact. On voit des images de Nantes, exact. Mais il ne neige pas à Nantes.
Et non, on a une petite fille qui est à Nantes et qui nous a envoyé des photos, il neige très très peu à Nantes.
Ouais,
et voilà, j'ai sous les yeux des voitures qui passent, avec de la neige sur les capots, comme en Haute-Savoie, quoi.
Oh, c'est formidable, la boule sous la neige, amis. Les sports d'hiver, alors les gens... On peut pas aller au sport d'hiver, mais les gens qui sont en vacances en ce moment, ils sont allés à la Baule et ils sont au sport d'hiver à la Baule. C'est unique au monde quand même.
La station balnéaire
est formidable. Ça, c'est la modernité de cette station pour les vacanciers. Ben, merci Michel.
Mais je vous en prie.
Vraiment,
merci pour vos émissions.
Ben, écoutez, c'est sympa. Hein, et puis, vous habitez une bien belle ville.
Merci.
13h19.
Merci.
Tombe la neige.
Tombe la neige.
Tu ne viendras pas ce soir.
Tu ne viendras pas ce soir.
Je connais les paroles.
Ouais, c'est sûr qu'en la diffusant 10 fois par semaine,
tombe
ça rentre.
La neige.
C'est super ça. Vous aimez pas? C'est de quelle année ça, Tombe la neige?
Je vais regarder.
S'habille de noir.
A tout de suite.
Ce soyeux cortège.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h21, nous sommes avec Paul. Mais Paul qui habite la Baule également. Mais alors toute la Baule nous appelle du coup. Bonjour.
Bonjour, ben écoutez, on répond à votre appel.
Ben oui, un appel était intéressant, un deuxième, pourquoi pas, Paul. Mais vous habitez où, vous, dans la Baule?
Ah ben j'habite sur le remblai de la Baule.
Ah oui, donc vous êtes dans un appartement?
Bah exactement.
Donc et à l'année?
Alors, oui, tout à fait.
Donc là, vous avez la baie devant vous.
Eh oui, couverte de neige.
La baie est blanche.
Donc c'est l'hiver, donc l'hiver, il y a la neige. Et puis en plus, nous, on va avoir des arbres de Noël au fond de la baie de la Baule dans peu de temps, qui vont clignoter toute la nuit. Je vous parle des 80 mâts d'éoliennes qui vont nous défigurer le paysage. Alors, on a les boules, en plus.
Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est quoi ces éoliennes? Qui va les installer?
Ah bah écoutez, des promoteurs éoliens.
Non mais c'est l'État qui a décidé cela ou c'est la mairie de la Baule?
Ah ben non, la mairie de la Baule n'a pas la parole dans ce genre de sujet. C'est un programme politique, les éoliennes.
Bon.
Donc en plus, on va nous les installer sur la zone de biodiversité la plus importante du secteur.
Bon, faut que je vérifie cette affaire d'éoliennes parce que c'est vrai que...
Vous avez 80 mâts d'éoliennes qui vont boucher l'horizon esthétiquement.
C'est vrai que ça défigure, disons-le, ces éoliennes. D'ailleurs, faudrait faire un jour un débat et que ça défigure pour le moins le paysage. Je sais pas d'ailleurs si les gens sont... si on demande leur avis aux uns et aux autres.
Monsieur, il y a eu une enquête publique.
Oui.
63% des gens qui sont allés déposer de l'enquête publique se sont déclarés contre. Mais le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, c'est-à-dire que c'est un déni de démocratie.
Bon,
tout simplement.
Bon, en fait, vous nous appelez pour parler des éoliennes et pas de la neige à la Baule. J'ai bien compris.
Je faisais un petit parallèle, votre standardiste m'a dit, vous ne manquez pas d'humour. Ben, je dis oui, la neige, nous on va avoir les arbres de Noël et on a les boules.
Voilà, c'est un chantier titanesque de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire, installé à 12 km du Croisic et de la Baule. C'est ça, c'est ces 80 éoliennes là, c'est ça.
Ouais, on les appelle de Saint-Nazaire, mais de Saint-Nazaire on ne les verra pas. Ils sont en face, la Baule, Pornichet, le Croisic, etc., toute la côte sauvage.
C'est le projet de ferme offshore, mais à quoi ressemble...
Non, écoutez, moi le terme de ferme ne me convient pas.
Oui.
On parle aussi de parc. Pour moi, une ferme et un parc, ça n'a rien à voir avec une industrie électrique qui n'est même pas offshore. Offshore, bon, ça veut dire qu'on ne les voit pas de la côte. Là, on va les avoir en plein dans le pays. Là.
Bon, manifestement, effectivement, ça fait...
Et puis, vous savez, monsieur le journaliste...
Monsieur, moi, mon nom, c'est Pro.
Oui, rappelez-vous l'Erika.
L'Erika, oui, l'Erika, le...
Et le pétrolier.
Le bateau.
Qui pollue la côte. Eh bien, écoutez, le prochain Erika, parce qu'ici, on a quelquefois quelques tempêtes, le prochain Erika pétrolier ou tout autre cargo avec des produits polluants, qui se trouvera en difficulté au large de la Baule voulant entrer dans l'estuaire de la Loire, et bien il viendra en cas de panne de moteur ou de gouvernail jouer dans un magnifique jeu de quilles.
Bon, bah, figurez-vous que y a quelqu'un qui vous écoute attentivement, c'est le maire de la Baule, Franck Louvrier, puisqu'en même temps que vous parliez, il m'envoie une petite photo amusante avec un forfait ski passe la Baule. Voyez-vous que je reçois à l'instant par SMS. Donc, et je ne sais pas ce qu'il pense de ce sujet, que je découvre comme vous, hein, Paul, mais ça serait intéressant, pourquoi pas un jour, de l'écouter sur
Paul
ce sujet.
Paul est un Baulois réfractaire aux éoliennes.
C'est moche les éoliennes. Je vais vous mettre des éoliennes devant chez vous. Vous allez voir comment vous allez être dans l'état dans lequel ça va vous mettre, cher monsieur Caradoni.
On a le droit de dire ça, surtout, hein.
Sans être brûlé vif. On a le droit de dire ça, que ça dévisage le paysage. Laurent Tessier.
Très bien, je note tout pour le débrief dans
une heure. Bien sûr. Ah oui, le débrief, c'est important. Hein.
Ah ben oui.
Parce que c'est un rendez-vous, donc il faut bien l'annoncer entre 13h et 14h30.
C'est ce
parce
que je fais, monsieur Pro, monsieur le journaliste.
Exactement, monsieur le journaliste.
L'égalité des chances est-elle une réalité ou un mythe en France? Les grandes écoles sont-elles réservées à une élite? Emmanuel Macron est à Nantes aujourd'hui pour promouvoir l'accès des étudiants moins favorisés aux écoles de la haute fonction publique. Reproduit-on le même schéma social? A-t-on les moyens de pouvoir s'en sortir dans le pays? Pour Jean-Luc, beaucoup de jeunes ne peuvent pas accéder aux grandes études, des parents ne peuvent pas assumer le coût et il n'y aura jamais d'égalité des chances, s'énerve Axel sur la page Facebook de l'émission. Partagez-vous ces avis, 3210. Peut-être bientôt un nouveau mot dans le dictionnaire, parange, la contraction de parents et anges pour désigner tous ceux qui ont perdu un enfant. Les députés mènent le combat à l'Assemblée nationale.
Oui, donner une visibilité sociale à ses parents, c'est la proposition des députés avec cette résolution pour faire entrer dans le dictionnaire le terme de parange. Nadia Bergougnou, une de ses mères, en explique la portée symbolique.
Évidemment, cela ne fera pas revenir nos enfants. Ce mot, il s'adresse à tous les parents qui ont perdu un enfant, à quelque âge que ce soit. Et j'espère que, enfin, nous allons pouvoir être nommés. Nous sommes
parange. Le mot parange pour désigner tous ceux qui ont perdu un enfant. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis au 3210.
Et nous sommes avec Laurence. Bonjour oui, Laurence. Bonjour. Et on change de sujet, on est sur l'égalité des chances. Oui. Alors là, j'ai appris par exemple ce matin en écoutant la matinale que il n'y a qu'un fils d'ouvrier à l'ENA.
Oui.
Donc c'est la reproduction des élites, c'est les thèses de Bourdieu, etc., etc.
Je ne suis pas surprise dans la mesure où, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, parce que c'est pas seulement quand on est en banlieue, mais quand, par exemple, moi qui suis dans le rural, eh bien, nous ne sommes pas du tout sur la même sur le même pied d'égalité que des enfants qui sont en école de centre-ville et qui vont avoir donc des parents qui vont pouvoir emmener leurs enfants voir un orthophoniste ou un psychologue avec un délai très raisonnable d'attente. Nous, en tant qu'enseignants, lorsque l'on demande à des parents de faire un bilan, c'est à peu près 2 ans, voire 2 ans et demi d'attente pour avoir un rendez-vous pour faire un bilan. Inutile de vous dire que les dégâts sont déjà quand même déjà largement faits sur l'apprentissage de la lecture, le vocabulaire, etc. Là, avec le confinement cette année, on a quand même vraiment pu constater, évidemment, que les familles qui ne sont pas en mesure d'accompagner leurs enfants au niveau scolaire, ces enfants-là ont bien, bien souffert. Et on rame pour essayer de les faire combler le retard qu'ils ont accumulé sur les 6 mois qu'ils ont perdu. Clairement, je pense que quand on parle d'égalité des chances, faudrait déjà qu'on s'occupe de l'égalité des chances sur le territoire et sur les mêmes accompagnements éducatifs pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas ça. Nous, on est à 27 par classe. Hein. On n'est pas à 12 en CP ou 12 en CE1. On est à 27. Donc, pareil.
Oui, parce que vous êtes professeur, hein.
Je suis professeure.
Vous êtes directrice d'une école primaire. Oui, mais alors justement, c'est intéressant. D'abord, ce que vous dites est imparable. Mmh. Mais en même temps, Albert Camus a eu le prix Nobel. Mmh. Sa mère ne savait pas lire. Et la première chose qu'il a faite...
Mes parents étaient ouvriers. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus imparable, ce n'est pas impossible, on est d'accord. Mais par contre, pour des parents qui ont plus de difficultés à accompagner leurs enfants, à aussi les soutenir et les amener à se surpasser, entre guillemets, pour aller au-delà de ce qui est attendu à l'école et essayer de les faire avancer, ces enfants-là, s'ils ne sont pas suivis, eh bien, ils vont faire un métier qui va leur semblait à leur portée et qui, pour autant, ils auraient peut-être pu en effet envisager autre chose, mais ils n'ont pas cette, cette motivation.
On va marquer une pause, Laurence, parce que vous reprenez cours à 13h35. Vous habitez Beaurounois?
Beaurounois.
Beaurounois, c'est où Beaurounois?
C'est dans l'Eure. C'est
dans l'Eure.
30 de Paris.
Écoutez. Donc. Je ne connais pas la petite ville de Beaurounois.
Ah voilà, c'est une commune nouvelle. Hein. Il y a plusieurs communes et maintenant c'est Beaurounois.
Eh bien, merci beaucoup Laurence et bonne reprise de votre cours à 13h35. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Greg Caranoni, je viens de comprendre votre excellente blague sur les Baulois réfractaires.
Ah bah.
Ah, c'était fin. Non, mais vraiment, je viens. Vous préfériez
m'attaquer sur les éoliennes à planter en face de chez moi.
J'ai l'esprit d'escalier, mais c'était très, très drôle. L'égalité des chances, c'est intéressant parce que, évidemment, tout ce que disait Laurent, c'était juste, mais en même temps, je lui rappelais que Albert Camus a eu le prix Nobel, sa mère ne savait pas lire. Et Jean-Claude Carrière, qui est mort il y a quelques jours, 89 ans, il est normalien, il est le premier à avoir fait entrer un livre dans sa maison, il était fils de viticulteur. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Ouais, je partage complètement ce qu'a dit Laurence auparavant. Donc moi aussi, je ne crois absolument pas à l'égalité des chances, parce que effectivement, moi qui suis enseignante, je vois bien que tout dépend de la famille dans laquelle l'enfant naît. Et du coup, les dés sont quand même pipés à la base, parce que effectivement, une famille qui malheureusement ne pourra pas accompagner son enfant pour l'aider à faire ses devoirs, eh bien déjà, il va y avoir un fossé qui va se creuser, pas pouvoir non plus peut-être avoir la possibilité de payer des cours particuliers. Donc certes, nous, on essaye de mettre en place des choses, mais c'est un saupoudrage. Donc moi, l'égalité des chances, non, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas.
Oui, mais vous êtes quand même contredit par des exemples de personnes.
Mais si peu d'exemples.
Donc vous pensez qu'il y a une forme de déterminisme,
oui,
de fatalité, c'est-à-dire qu'on est dans sa classe sociale et on meurt dans sa classe sociale.
L'ascenseur social peut parfois fonctionner, mais je veux dire, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier-là, et c'est vrai, force est de constater qu'effectivement, l'ascenseur social, il joue très peu. Parce que il y a quand même, il y a aussi dans des familles un petit peu plus aisées, on va avoir le souci d'ouvrir l'esprit de ses enfants.
C'est évident que lorsqu'on est.
Et puis aussi un manque d'ambition, parce qu'il y a aussi parfois ça.
Mais vous avez raison.
Des textes, je veux dire, qui pourraient avoir du potentiel de faire des études plus hautes, mais les parents nous disent, mais ça va nous coûter cher, on pourra pas payer les études. Je veux dire, ça reste quand même une réalité.
Vous avez parfaitement raison. Effectivement, si tu nais à Paris dans une famille extrêmement privilégiée où le père a un rôle social et important, ou la mère de la même manière a un rôle social et important, l'enfant a plus de chances. Mais en même temps, bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, parce que comment on pourrait faire l'inégalité? Il y a certaines inégalités, faut les combattre, hein, bien sûr, et il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'école.
Ouais.
Mais après, forcément, quand tu nais dans une famille, c'est être né quelque part, quoi. C'est la petite chanson de Renaud.
Je pense que c'est ce qu'a bien décrit aussi l'enseignante auparavant. C'est qu'effectivement, on surcharge de plus en plus les classes. Nous, en collège, on a des classes à 30. La nouvelle marotte du gouvernement, c'est l'inclusion à tout prix. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui sont d'un milieu social moins élevé que d'autres, qui pourraient certainement, effectivement, accéder à des plus hautes études. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours de temps à leur consacrer, parce qu'avec des élèves à des classes à 30, alors au milieu, vous mettez des gamins qui ont des pathologies diverses et variées. Donc je dis l'inclusion qui arrive de plus en plus, avec des niveaux donc de plus en plus disparates. C'est sûr que on essaie de faire ce qu'on peut, mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à proposer à ces enfants-là de pouvoir effectivement que l'ascenseur social fonctionne.
Greg, être né quelque part, c'est pas du tout de Renault, comme vous me l'avez
non,
soufflé.
Non, c'est Maxime Le Forestier. C'est ça que je vous ai soufflé, vous voulez dire.
Mais arrêtez, c'est de Bernard Lavilliers, non?
Ah, c'est moi, j'ai Maxime Le Forestier.
Bon, on va trouver.
Donc, je sais pas qui vous a soufflé ça, mais.
Ben, on va écouter être né quelque part. Mais, merci en tout cas, Sophie. Merci beaucoup. Ce qu'il faudrait, en fait, Sophie, c'est des stats. Quand vous dites, ça serait vraiment intéressant. Ça fait 25 ans que vous avez des élèves. Ce qui serait amusant, sur toutes les classes que vous avez eues, quels sont ceux qui sont restés, entre guillemets, dans leur milieu d'origine? Quels sont ceux qui se sont extraits de leur milieu d'origine, soit en montant, soit en descendant? Et d'avoir des statistiques, vraiment, ça serait très, très intéressant d'avoir ça, Sophie.
Ouais, c'est vrai que ce serait très intéressant, mais je veux dire, j'ai quand même relativement bonne mémoire.
Oui.
Effectivement, très, très rares sont ceux qui, effectivement, sortent de leur milieu social, parce qu'effectivement, il y a aussi
c'est
souvent
terrible, d'ailleurs,
un manque d'ambition.
Oui, alors vous avez raison, c'est ancré. Alors
peur,
ça, vous avez parfaitement
peur,
raison.
Effectivement. Et puis il y a quand même aussi le phénomène argent qui est là.
Mais je suis
on
d'accord avec vous.
On a eu des fois aussi des élèves qui n'étaient pas très très bons. Mais je veux dire, les parents vont leur payer des écoles privées ou des élèves qui vont, par exemple, chuter en école de médecine ou en école de veto. Et c'est des gamins, si les parents ont de l'argent, vont les envoyer étudier en Espagne, vont les envoyer étudier en Belgique. Et ça, malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Vous avez parfaitement raison. Il y a des ADN dans chaque famille. Il y a des ADN d'ambition ou pas, des ADN d'écoles prestigieuses faites ou pas. Ça, vous avez parfaitement raison, Sophie. Et même, je vais vous dire, dans certaines familles, on ne sait même pas que Normal Sup existe ou que Sciences Po existe.
Tout à fait. Et puis aussi le fait quand même, dès la maternelle, dès la primaire, aider son enfant, parce qu'effectivement, il y a malheureusement des parents qui sont assez vite dépassés par les devoirs.
Bien sûr.
Et je me mets aussi à la place des sortes de certains parents, quand ils ont passé leur journée à l'usine avec des conditions parfois difficiles, et c'est vrai que le soir, se remettre dans les devoirs, etc., etc., ça demande du temps. Et c'est vrai que ben, déjà à la base, ça, nous, on le voit dans nos classes, l'enfant qui est suivi et l'enfant qui ne l'est pas.
Ben, bien sûr, Sophie, c'est l'injustice évidemment de la vie. Merci beaucoup. Merci Sophie. Est-ce qu'on a le temps de prendre Franck? Non, une page de publicité. Franck est enseignant. Il y a beaucoup de. C'est intéressant d'ailleurs que beaucoup de profs nous appellent sur ce thème de l'inégalité des chances. Que dites-vous, Grégory?
Que né quelque part, c'est bien Maxime Le Forestier, dont c'était l'anniversaire hier d'ailleurs.
On peut écouter quelques notes de musique?
Bien sûr.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Effectivement, de l'injustice de la vie, et c'est une réflexion que chacun peut avoir, c'est-à-dire que d'abord vous n'avez pas choisi d'être là, vous n'avez pas choisi d'avoir les parents que vous avez, vous n'avez pas choisi d'être né en France plutôt que dans notre pays. En fait, en gros, vous n'avez rien choisi. C'est assez profond ce que je vous dis.
C'est pour ça que je reste sans mots.
J'égrène quelques banalités, mais quelle est votre part de responsabilité dans la vie que vous menez?
Le pire, c'est que j'ai choisi d'être là face à vous. Vous vous rendez compte? Cette vie est incroyable.
Non, je suis d'accord, mais quelle est la part de votre responsabilité? Parce qu'on se donne toujours le bon rôle. On se dit, ah, c'est grâce à moi, etc. On y est peut-être pour rien. On n'est peut-être que des petits bouchons sur l'océan. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Un rappel important, si vous l'avez oublié dimanche, c'est la Saint-Valentin.
Oui.
Avec la fermeture des restaurants, qu'avez-vous prévu pour votre bien-aimé? Quel est votre programme? Vous ne voulez pas participer à cette fête commerciale? Venez faire alors une déclaration à l'amour de votre vie au 3210. Et je sens que vous adorez la Saint-Valentin, Pascal Pro. Ça se voit à votre visage.
Non, j'aime bien ça, mais là, c'est une Saint-Valentin entre quatre murs. Jadis, on invitait sa dulcinée au restaurant. On achetait. Ouais. Alors, on pourrait acheter des fleurs, c'est déjà ça.
Des chocolats.
Hein. Oh, faut pas attendre la Saint-Valentin pour acheter des fleurs.
Enfin. Alors, écoutez-vous, vous rentrez les pieds, vous mettez les pieds sous la table et vous faites bosser votre femme. Alors, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, monsieur Caradoni, n'en rajoutez pas. Hein. Vous conduisez comme un homme du 19e siècle.
C'est faux.
Franck est là, qui est enseignant.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Sur l'égalité des chances, et je rappelle à ce que j'ai entendu ce matin sur l'antenne, il n'y a qu'un fils d'ouvrier dans la promo de l'ENA. Et dans les grandes écoles françaises, c'est la reproduction des élites. C'est ce qu'on dit souvent. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est à Nantes aujourd'hui, parce qu'il devait intervenir sur ce sujet. Il était dans une école d'administration.
Tout à fait. Eh ben, écoutez, moi, je rebondirai sur ce que vous avez dit il y a quelques secondes. On vous dit que les parents ne connaissent pas les possibilités qui sont offertes sur les grandes écoles, et c'est sûrement le premier point sur lequel il faut agir, puisque on a des élèves et des parents qui sont défavorisés, mais souvent ces catégories-là sont aussi les moins bien informées. Donc l'effort à faire, pour moi, et le premier effort, c'est en matière d'information et d'orientation de ces enfants. Parce qu'il existe des dispositifs, alors je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui existe, mais depuis 2007-2008, vous avez par exemple, moi comme enseignant, les Cordées de la Réussite, qui sont une association entre des collèges et des lycées, et des tuteurs qui font partie des grandes écoles. Et ces échanges ici, pour ouvrir la culture à ces jeunes des milieux souvent défavorisés, de REP et plus, c'est-à-dire de milieux sociaux les plus difficiles, un réseau d'aide. Je bégaye un peu.
Non, mais ce qui est intéressant, ce que disait Sophie, l'aspect psychologique. Il y a dans les familles des freins psychologiques. On se dit, ah non, c'est pas pour moi. Je disais, évidemment, ces hautes études, ces grandes écoles, normales sup, je suis pas sûr que tout le monde connaisse.
Mais je vous dis, il faut informer.
Oui, mais comment vous arrivez à informer dans des familles où la culture n'est pas forcément présente, etc. Moi, j'ai l'impression que l'aide, elle peut venir, vous êtes enseignant, précisément, de vous. Et que c'est peut-être aux enseignants d'aller voir les parents, de dire attention, vous avez un fils exceptionnel, il faut le pousser, parce que peut-être que dans ces familles-là, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas les bons critères pour décoder l'exception qui est dans sa propre famille.
Oui, mais c'est notre rôle de toute façon. Il faut, on est en tant que, moi je suis professeur principal, vous avez des conseillers d'orientation, de psychologues, et c'est notre rôle de pousser à ça.
Bien sûr.
Et donc. Il existe des dispositifs. Je vous en donne juste un exemple. Par exemple, si on ne fait pas l'effort d'aller dire à ces enfants qui ont un potentiel mais qui ne le connaissent pas, je vous donner un exemple précis. Vous avez des lycées de la Défense. Il faut savoir qu'on pense souvent que c'est réservé aux militaires ou aux fonctionnaires. Non. 15% des élèves sont boursiers. Mais si on ne donne pas ces pistes, effectivement, on ne peut pas savoir. Et ce n'est pas qu'aux élèves qui sont excellents. Vous avez aussi des élèves en difficulté qui ont des voies de réussite possibles, mais qui ne sont pas au courant. Et c'est vrai que c'est à charge après aux enseignants, aux professeurs de le faire. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est le temps qu'on accorde à l'intérieur de l'emploi du temps d'un élève à l'orientation. Et pour moi, il est bien trop faible là. Je pense qu'il faudrait consacrer des temps qui soient plus importants à ça. Peut-être, alors là je vais me faire des ennemis, peut-être sur un allègement d'autres matières ou d'autres parties de matière. Je pense qu'il y a des orientations qui parler d'orientation, mais aussi parler, puisqu'on parle de concours, à travers ce que veut le président de la République, là, accéder au concours. Il y a peut-être des matières qui sont à mettre en avant, comme l'économie et le droit, qui ne sont même pas touchées en collège et très peu en lycée. Donc il y a peut-être des choix aussi à faire au niveau politique. Donc il y a du temps à dégager pour partager d'orientation. Et puis, alors je vais être un peu égoïste, hein, je vais parler de mon propre cas, il faut peut-être aussi valoriser les enseignants qui font ces efforts-là.
Bien sûr.
Parce que pourquoi s'épuiser à faire plus que le travail demandé si de l'autre côté il n'y a pas une récompense ou bien une revalorisation financière en fonction des efforts faits?
Bien sûr, mais bon, il y a un côté sacerdoce, hein, on le sait bien dans les enseignants, et puis un plaisir de faire progresser les élèves également, de voir aussi ceux qui sont les plus aptes, hein, à aller dans ces écoles-là. Dans le temps, il y avait un concours, c'était le concours normal, c'est cela qui où les profs présentaient les meilleurs élèves. Je ne sais pas si ça existe toujours ce concours-là. La notion de concours n'a plus tellement la cote aujourd'hui, Franck.
Ben si, c'est le principal critère qui fait la sélection justement. Mmh. Et c'est pour ça que je repense ce que je disais, quand vous regardez les concours, les familles favorisées savent très bien que dans la plupart des concours, on est sur des questions de droit, d'économie, très souvent pour une grande partie des concours. Vous avez donc des élèves qui vont travailler juste post-bac ou juste avant au lycée et qui auront ces ouvertures-là. Donc il faut vraiment faire cet effort d'information qui est...
Ben merci.
Digital,
merci, mais l'inégalité, voilà. Alors là on parle effectivement pour les cerveaux, mais l'inégalité des chances, par exemple, je m'aperçois que les grands sportifs, souvent leurs parents étaient eux-mêmes des grands sportifs et ils avaient des prédispositions et puis également un climat culturel qui les a poussés immédiatement vers le sport. C'est vrai avec Nadal, c'est vrai avec Mbappé, dont les parents étaient sportifs. Donc cette inégalité, elle est à tous les niveaux, bien évidemment. 13h46.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Pascal Praud,
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La bataille pour l'apparition d'un nouveau mot est une affaire hautement sensible et là il s'agit d'un sujet qui ne l'est pas moins, le décès d'un enfant. Quand on a perdu ses parents, on est orphelin, son conjoint, on est veuf ou veuve, mais il n'y a pas de mot pour ceux qui ont perdu un enfant. D'ailleurs, on pourrait s'arrêter là, il n'y a pas de mot pour ceux qui ont perdu un enfant. Ils ont trouvé le mot « parange », certains députés, et « parange », donc P-A-R-A-N-G-E, une contraction de « parent » et de « ange ». Et nous sommes avec Catherine, qui habite la Gironde et qui voulait réagir sur ce sujet, puisque vous-même, vous avez connu ce drame, Catherine.
Oui, bonjour Pascal, très contente d'être en ligne avec vous. Oui, effectivement, et je suis pas tellement pour hein, ce terme parce que je ne vois pas quand est-ce qu'on l'emploierait. Et je me demande si c'est, je comprends pas très bien pourquoi. Voilà, bonjour, ben je suis parent. Ben non, déjà on dit pas bonjour, je suis parent, donc déjà je comprends pas. Et peut-être que ces gens auraient besoin un peu d'être, je sais pas, moi j'aurais l'impression qu'on me plaint un peu, vous voyez, et on n'a pas besoin de ça hein, puisqu'on le vit au quotidien. Alors que ça fait 31 ans que donc mon petit garçon est décédé, donc
qui avait 4 mois. Hein.
Il avait 4 mois, ouais, mort subite du nourrisson. Donc je ne vois pas déjà dans quel cas employer ce mot-là. Et je me demande en plus si c'est pas un peu dévaloriser mes enfants vivants, parce qu'on me dit ah vous êtes parent de 3 enfants. Ah non, je suis parent. Mais enfin, je trouve ça choquant. Moi, quand on me demande combien j'ai eu d'enfants, donc je dis 4. Si on me dit combien vous avez d'enfants, ben je dis 3. Si on me demande les âges, ben je donne les âges des vivants. Si la personne réagit en me disant ben je comprends pas, il en manque un, ben là je le dis. Mais sinon, je le dis pas. Je trouve qu'il faut garder. Enfin, c'est mon avis. Hein. Je n'ai pas envie que tout le monde autour de moi le sache et que ça fasse une espèce de oh là là, elle a perdu un enfant. Oh là là, ça ne regarde personne. C'est pas c'est quelque chose de très très personnel, quoi. Et je vois pas pourquoi mettre un terme dessus. Mais voilà, quoi. C'est juste pour réagir que j'avais appelé.
Ben merci Catherine, c'est un sujet douloureux, donc je pense que finalement s'il y a quelqu'un qui devrait être consulté, ce sont précisément les parents qui ont perdu un enfant. Oui. J'ai envie de dire qu'il n'y a que vous qui puissiez donner le bon avis.
Bien sûr, mais je crois que la dame que j'ai entendue, je sais pas si c'était une députée, je crois qu'elle a perdu un enfant. Hein. Comme elle tourne sa phrase, j'ai compris qu'elle avait perdu un enfant. Et parce qu'elle a dit « nous », qu'on mette un terme sur notre. Alors, moi, je me dis, elle veut qu'on mette un terme sur notre souffrance, mais... Bon, bah, c'est tout, quoi. Hein. Voilà, point à la ligne. Hein.
On va la réécouter. C'est la députée de la France Insoumise. Je pense que c'est Mathilde Panot, mais je ne suis pas précisément au courant de sa situation. Donc, je pense que je ne peux pas affirmer ou confirmer ce que vous dites.
Imaginez que, alors que ça passe, ça veut dire que maintenant, les gens qui auraient quelqu'un de leur famille qui serait décédé dans un attentat, il va falloir trouver aussi un mot. Enfin, on n'a pas envie que tout le monde sache qu'il s'est passé de décès dans notre vie, chacun a des fardeaux. Et
oui,
comme
mais,
ça, quoi.
Mais en plus, c'est inverser la façon dont un mot existe. Là, on l'imposerait. On sait bien qu'à chaque fois qu'on veut imposer un mot, ça ne marche pas. C'est la société qui trouve son mot, généralement. C'est comme ça que ça s'est toujours produit. Merci en tout cas, Catherine. Merci.
Mais de rien. Et bonne émission. Et en sachant que je suis rarement d'accord avec vous. Hein.
C'est vrai,
je vous adore quand même.
Bah, écoutez, je vais vous dire quelque chose, je suis rarement d'accord avec moi-même. Donc,
ça va alors.
Mais si vous m'adorez, ça me suffit. Ça me convient. Je préfère que vous ne soyez pas du tout d'accord avec moi et que vous m'aimiez bien, plutôt que vous soyez toujours d'accord avec moi et que vous ne m'aimiez pas.
C'est-à-dire que je vais au travail en vous écoutant.
Oui, parce que je vous énerve. Je vous agace.
J'ai
écouté Pro, il m'a énervé. Franchement, il m'énerve.
C'est pas possible parce qu'après, j'étais élève et je vais m'énerver.
Mais par exemple, sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Oh, j'en sais rien. Je sais pas, là, je peux pas vous dire comme ça, mais il y a des choses qui m'énervent.
Ah bon?
Mais c'est pas vrai. Quand, par exemple, il y a des choses toutes simples où vous avez l'air de pas les connaître. Et je me dis, mais enfin, attends, mais il a 15 ans, il a quel âge, quoi?
Mais,
je comprends pas.
Mais je connais pas
alors,
tout.
Je me dis, peut-être il fait exprès.
Ah, parfois, ça peut, parfois, je fais exprès. Ça, je, mais, bon, mais ouais. Généralement, non, mais parfois, je, pour le coup,
ah, mais tiens, pour les éoliennes.
Oui.
Pour les éoliennes. Ah ben, je vais vous dire un truc. Moi, je trouve, alors, ok, d'accord, bon, moi, j'ai pas d'éolienne près de moi.
Non, mais je vous ai dit que c'était moche.
Eh ben oui, ben moi, je suis pas d'accord. Parce
vous
que,
trouvez que c'est beau.
C'est joli. Ben, je trouve pas ça beau, mais j'aime pas non plus une ligne à haute tension.
Mais
j'aime
c'est pas
non plus les
vous...
poteaux électriques.
Mais,
j'aime pas les poteaux téléphoniques.
Mais je vous signale que les lignes, elles sont enterrées depuis des années, les lignes téléphoniques.
Oh non, mais dis donc, alors,
et
non,
les lignes
vous allez
à haute
venir
tension.
En Gironde, dans le Médoc, et vous allez voir que c'est pas enterré.
Donc vous êtes, en fait, donc vous êtes d'accord avec moi sur les éoliennes, vous trouvez pas ça beau comme moi?
Ben, je trouve ça plus joli qu'une ligne à haute tension.
Mais elles sont enterrées, les lignes à haute tension, à haute
mais
tension.
C'est pas vrai. Oh, bah, j'ai vu, vous voyez, non, vous pouvez pas dire ça, Pascal.
Elles sont pas enterrées. Les lignes à haute tension, très souvent,
mais non, mais non, pas du tout.
Bon,
il y en a peut-être, hein, mais il y en a encore plein.
Catherine, vous faites.
Ouais.
Vous habitez où en Gironde?
J'habite à Sissac, mais à côté de Pauillac.
Ah, bon, ben ça, on viendra vous voir, parce que déjà, c'est une belle région, déjà, d'aller à Pauillac.
C'est une belle région, voilà, mais il y a des lignes à haute tension, ça, c'est sûr.
Bon, est-ce que vous pourriez nous rappeler de temps en temps pour qu'on s'énerve comme ça,
oui,
habituellement?
Voilà, ok, d'accord. Ah. Dès que vous allez m'énerver, je vais vous appeler.
Exactement. Je peux vous donner mon portable direct, si vous voulez, comme ça. Oh, ça va, il y en a là. Vraiment, je suis pas content.
Ah non, quelquefois, vous avez tellement naïf que ça me
sidère. Je suis, comment dites-vous, quelquefois?
Naïf.
Je suis naïf. Ah, ça, c'est quelque
oui.
chose que j'imaginais pas. On m'a rarement dit que j'étais naïf, figurez-vous.
Ah,
donc,
bah,
je suis plutôt
fois, oui.
Un peu niais. Je ne me permettrai pas. Bon, merci, Catherine. Je vous fais des bisous, en tout cas.
Ok, bah,
c'est
moi
très
aussi,
gentil.
Bonne journée.
C'est très gentil parce que vous êtes sympathique. Nicole est là. Bonjour Nicole. Alors on va mettre, on était dans la légèreté, mais c'est un sujet qui ne l'est pas du tout. Et Nicole, vous habitez dans les Vosges. Et
oui.
Et évidemment, votre vie a subi quelques drames.
Moi, j'ai eu deux décès d'enfants. Donc, une petite fille qui aura bientôt 31 ans dans quelques jours, suite à un assassinat, et un petit garçon, il y a 43 ans, d'une maladie. Et je suis entièrement d'accord avec ce que la dame vient de dire. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'elle vient de dire. Je trouve inutile de nous en rajouter. Et puis c'est notre problème à nous. C'est je vois pas du tout cette utilité de mettre des noms sur tout.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que je me demande surtout si vous avez été consulté. C'est-à-dire que les députés ont pris cette initiative. Moi, je me méfie parfois, c'est vrai, des députés, parce que parfois ils pensent à eux. Donc c'est une manière de faire parler de soi, de proposer quelque chose.
Oui.
C'est ça qui m'ennuie. Et j'espère que ça correspond aussi à une demande, en l'occurrence des parents qui auraient pu perdre des enfants. Mais je m'aperçois que vous, Catherine, que vous, Nicole, que Catherine tout de suite, c'est pas une demande de votre part. Ah, Nicole est partie.
Notre problème à nous, c'est notre... Et puis voilà, ça fait des années, nos enfants sont toujours là, et on n'a pas besoin qu'on vienne nous donner une appellation parce qu'on a perdu des enfants. C'est à moi, ça n'appartient qu'à moi.
Mais alors, est-ce que vous savez si des parents ont été consultés, des parents
Personnellement, j'ai pas été consulté. Oui. J'ai entendu personne consulter, non.
Ça serait intéressant de demander la démarche de ces députés. Merci Nicole pour votre témoignage, parce que j'imagine que c'est pas facile pour vous de parler de ça.
Non, mais bon, c'est tout, ça fait partie de ma vie et tout. Et je voulais vous dire aussi, comme la dame précédente, on a beaucoup de points communs toutes les deux. Vous avez don de m'énerver des fois.
Bon, moi aussi j'énerve tout le monde, alors là, Nicole, ça c'est...
Non, je vous écoute. J'écoute RTL depuis, je vais vous dire une chose. J'étais toute petite et il y avait Pierre Bénard qui racontait des histoires le dimanche soir. Et comme je pleurais tous les dimanches soirs, mes parents m'avaient interdit d'écouter Pierre Bellemare, voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter RTL depuis, hein. Je suis toujours fidèle.
Et
voilà.
Vous m'écoutez parce que je vous énerve?
Non, il y a des fois où je suis d'accord avec vous, mais bon, pas toujours non plus.
Et c'est marrant parce que, en fait, c'est l'émission des auditeurs, hein. C'est pas... Moi, je donne peu mon avis.
Non, mais c'est vrai que quelquefois, vous avez des réactions. Je dis, mais bon, il a bien fait de réagir comme ça. Et puis des fois, je me dis, mais non, qu'est-ce qu'il dit? Mais bon, on ne peut pas être d'accord toujours avec vous. Hein, c'est pas possible.
Merci beaucoup, Nicole, en tout cas. Merci.
Au revoir et merci de m'avoir rappelé.
Ben non, merci vraiment. Merci à vous. Il est à 13h58 bientôt. Hortense Crépin est là et on continuera bien sûr ce sujet Parange qui est un très joli sujet et je voudrais vraiment savoir si les députés ont consulté les parents qui ont perdu un enfant. Ça m'intéresserait vraiment de connaître la réponse. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. RTL.
À la seconde près, il est 14h. On va poursuivre dans un instant la discussion sur ce mot « parange » que les députés proposent. Mais avant cela, Hortense Crépin, le rappel des titres.
Après les accusations d'inceste contre son père, Colin, la fille aînée de Richard Berry, entendue comme témoin par la Brigade de protection des mineurs. Une enquête préliminaire est ouverte depuis le 25 janvier après une plainte concernant des accusations remontant aux années 80, accusations démenties par le comédien. Dans une autre affaire, celle impliquant le président du Centre national du cinéma, Dominique Boutonnat, le parquet annonce ce midi l'ouverture d'une information judiciaire pour agression sexuelle et tentative de viol. Hier, le président du Centre national du cinéma a été placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet et présenté à un juge d'instruction après une plainte de son filleul de 22 ans. Le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire. Le lancement des tests salivaires, aujourd'hui, ils ont reçu le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Cela doit permettre des dépistages répétés dans les écoles et les universités. Jean Castex se rend aujourd'hui dans une école du 13e arrondissement de Paris à cette occasion. En football, Antoine Camboire devient le nouvel entraîneur du FC Nantes après le limogeage hier de Raymond Domenech. Il est donc le 16e entraîneur du club en moins de 14 ans. Les 32e de finale de Coupe de France continuent. À 18h45, Sochaux reçoit Saint-Etienne et Angers affronte Rennes à 21h. Et puis un anniversaire bien particulier aujourd'hui, Sœur André, la doyenne des Français et des Européens, fête ses 117 ans. Testée asymptomatique au Covid-19 mais positive le mois dernier, elle est saine et sauve. C'est aussi la deuxième personne la plus âgée au monde. La météo cet après-midi, 12 départements de l'Est toujours en vigilance orange grand froid et 8 de l'Ouest en vigilance neige verglas. Attention donc, des pluies verglaçantes attendues en Bretagne notamment. Les températures toujours très froides au nord, moins 3 à Strasbourg, 0 à Lille, 2 à Paris. Au sud, 11 degrés à Marseille et Bordeaux et 14 à Nice. Les courses cet après-midi, c'était à Vincennes, l'arrivée provisoire le 13, le 14, le 8, le 5, le 9, 14h02 sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est un sujet délicat et depuis quelques minutes, seuls des parents qui ont perdu des enfants nous appellent. Quand on a perdu ses parents, on est orphelin, je le rappelais. Son conjoint, on est veuf ou veuve. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mot pour ceux qui perdent un enfant. Alors, je crois qu'il n'y a pas de mot non plus lorsqu'on perd son frère, hein, d'une certaine manière, ou sa sœur, me semble-t-il. On dit parfois on est orphelin de son frère ou orphelin de sa sœur. C'est le mot qui est utilisé. Nous sommes avec Frédéric qui habite dans les Yvelines et pour le moment j'ai trouvé personne en fait parmi les 3-4 auditeurs qui nous ont appelés qui trouve que ce mot parange soit un mot qu'il faudrait utiliser. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, bonjour. Ben écoutez, j'ai voulu réagir parce que je rejoins sur beaucoup de points les avis précédents des autres auditeurs. Pour moi, il faut, je veux dire, la question ne se pose même pas. Il ne faut pas chercher un nouveau mot. Moi, je ne veux pas du tout être réduit à cet aspect de ma vie. Et donc, je fais exactement comme votre première auditrice. Là, j'ai souscrit à tout ce qu'elle a dit. Et je ne vois pas du tout me présentant, en me disant bonjour, j'ai perdu un enfant. Bon, non, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Et en plus, c'est une affaire tellement délicate qui résonne dans n'importe quelle autre personne qui immédiatement se projette en vous, etc. Donc non, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et nos députés ont bien d'autres choses à faire que de s'occuper de nos petites vies intimes, quoi. Voilà.
Vous-même, par exemple, par rapport aux autres, à l'entourage ou même à votre vie professionnelle, vous souhaitez que les gens soient au courant de cette information ou vous préférez qu'ils ne le soient pas ?
Non, non, je ne le veux pas parce que ça introduit une très grande distorsion dans le regard qui est porté sur les personnes concernées, quoi, sur les parents qui ont perdu un enfant. Oui, on ne voit plus que c'est la même chose que, je sais pas, quelqu'un qui serait remis d'un cancer, par exemple. En général, il ne va pas en faire une grande publicité parce qu'il ne veut pas être regardé comme cela, mais il va être regardé comme une personne qui va bien. Enfin, je veux dire, son identité ne se résume pas à être un ancien malade. L'identité ne se résume pas à avoir perdu un enfant, etc. C'est la même chose. En plus, au plan politique général, quelque chose qui me met en colère, moi, c'est tous ces mouvements de cette course entre différentes obédiences à la victimisation actuellement. Et donc, je ne veux pas du tout rentrer dans le concert d'être une nouvelle catégorie de victimes. Je ne suis pas victime. La vie m'a fait un sale coup, j'en suis bien d'accord, mais je refuse en tout cas qu'on utilise cela, encore moins qu'on l'utilise politiquement. Bref, nos députés, ils ont bien autre chose à faire que de s'occuper de ça. On nous dit, pardon Pascal, mais on nous dit en ce moment que l'agenda parlementaire est saturé et qu'il n'y a même pas de place pour étudier des sujets sérieux comme la réforme du scrutin. Et on voit quoi ? On voit certains députés qui viennent polluer le débat en voulant encore une fois s'occuper de nos petites vies à nous. Ils ne sont pas obligés de le faire. On leur a rien demandé. Voilà, donc qu'ils remballent ça dans leur tiroir, ça ira très bien, et qu'ils aillent s'occuper des vrais problèmes de la France, pas des petites affaires des Français.
C'est très intéressant de vous écouter, Frédéric, parce qu'il y a ce que vous dites, il y a ce qu'on devine, il y a le sous-texte de ce que vous dites, il y a la délicatesse avec laquelle vous le dites, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est très précis, effectivement. Non, mais c'est vrai, Frédéric. C'est assez fort ce que vous dites de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.
Bah, écoutez, merci pour vos émissions ici et sur les chaînes de TV. Je vous suivrai toujours avec autant d'attention.
Bah, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Il est 14h07. On va poursuivre encore. Et je vous rappelle qu'il y a toujours un grand moment. Certains disent le meilleur. C'est quand je ne parle plus. Et lorsque l'ami Laurent Tessier arrive à la fin de l'émission et fait le débrief. N'est-il pas ?
C'est vrai, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis en train de repenser. En fait, je me disais que les gens qui ne vous aimaient pas vous écoutaient quand même et ceux qui vous aiment vous écoutent aussi. Ça fait quand même du monde, hein, finalement.
Oui, mais quelle proportion de chaque côté ?
Ça.
Tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Yveline et ce sera sans doute le dernier témoignage sur ce mot parange. On n'aura trouvé personne qui aime ce mot. Je ne sais pas ce que en pense Yveline. Bonjour Yveline, vous habitez dans le Calvados et évidemment, vous avez perdu un enfant. C'est pourquoi vous avez souhaité nous appeler, j'imagine.
Oui, alors bonjour. En fait, moi, je ne rejoins pas du tout Catherine, Nicole et Frédéric. Si ce n'est de partager leur expérience et leur épreuve, ça bien évidemment, leur recherche de pudeur, de discrétion aussi, bien sûr, je partage, sans poser de questions. Par contre, quand j'ai entendu à la radio tout à l'heure que le sujet de cette émission, je n'en revenais pas. Je croyais entendre mes propres mots parce que c'est exactement ce que je disais à la psychologue qui m'a accompagnée pendant ces deux années là que je viens de traverser, ma famille et moi, où je disais mais on n'a pas d'identité, on n'est pas reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu un enfant. Je ne l'ai pas perdu, mon enfant. Je n'ai rien fait de mal. Je ne l'ai pas perdu dans un magasin. Voilà, il a eu un accident. Il a perdu la vie, oui. Il n'a pas voulu non plus, lui. Et en fait, j'avais besoin de me sentir parmi les autres humains. J'étais complètement choquée, bouleversée. Et je ne retrouvais pas ça. Là où j'ai trouvé un écho, c'est quand on a insisté un petit peu pour que j'aille m'inscrire dans un groupe de parole avec des personnes qui avaient aussi, qui vivaient aussi le même drame. Voilà, tout type de personnes. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que effectivement, je me retrouvais baignée dans un groupe d'humains identiques à moi. Et ils étaient identiques à moi par rapport à cette situation, à cette épreuve que je vivais. Et pas les autres autour, qui étaient pourtant si présents, si chaleureux, si compatissants. Il y avait un monde entre eux et moi. Je me sentais complètement isolée et pas dans ce groupe-là. Ça m'a beaucoup étonnée. Et j'ai cherché avec la psychologue qui m'accompagnait. Non, mais c'est vrai qu'il y a un terme pour nommer quelqu'un qui a perdu son parent, quelqu'un, mais il n'y avait pas de terme-là. Et je ne reviens pas qu'on propose quelque chose. En fait, Jean-Pascal, c'est très étonnant qu'on ne... Moi, je ne m'attends pas à ce qu'on me questionne. Hein. Je reste très discrète dans ma vie. Donc, mais je veux dire, je trouve étonnant. Enfin, j'espère qu'ils ont contacté des parents, enfin, qui ont vécu cette situation-là, ce drame-là, qu'ils ont partagé, parce que c'est un sujet très délicat. Avec la psychologue qui m'accompagnait, je butais complètement pour trouver un mot. Je n'arrivais pas à trouver et elle m'a proposé un jour désenfanté. Et je lui dis pourquoi pas. Et à nouveau, je lui dis mais non, c'est encore négatif. C'est vrai que c'est un arrachement hein, de perdre un enfant. Voilà, c'est quelque chose de terrible. Et je rejoins là Catherine, Nicole, Frédéric qui ne veulent pas rester justement sur la question de victimes, de plaintes, etc. Voilà, effectivement, c'est notre peine à nous, c'est notre chagrin. Mais on fait partie d'une société, on est inscrit dans une société. Et
donc le mot parange, finalement, donc le mot parange, il pourrait combler ce manque, si je vous comprends bien.
Oui, alors, c'est pas le mot qui me... Enfin, je préfère, enfin, je ne sais pas, j'en ai pas trouvé moi, j'ai pas trouvé. Je trouve que il est pas mal du tout. Ce qui m'a gênée tout de suite, je me suis dit, ah, c'est dommage, il y a une petite connotation religieuse. Voilà. C'est la seule chose.
Dans le mot ange?
Qui m'est un peu gênée. Parce que sinon, je trouve que ça apporte de la douceur. Ça met de la douceur sur la violence qui est vécue. Ça permet une reconnaissance.
D'accord. Une reconnaissance. Et vous avez besoin, et c'est important de le dire, que la société reconnaisse le drame que vous avez vécu, et même si cette société n'est pas responsable, hein, bien évidemment, mais c'est important pour vous qu'un mot existe pour qualifier cet état-là.
Oui, c'est pas reconnaître en tant que personne, c'est reconnaître en tant qu'état. C'est-à-dire que le fait de dire « elle a perdu ou il a perdu un enfant », c'est un verbe actif. On n'est pas loin de la responsabilité, là, vous voyez, d'une façon un peu symbolique.
Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, je l'avais jamais entendu comme ça, mais...
Enfin, moi, je le vivais comme ça. Bon, c'est moi personnellement aussi, hein, c'est ma difficulté.
Parce qu'on dit « il a perdu son père », c'est lorsque quelqu'un est mort dans sa famille, il a perdu son père, il a perdu son frère, il a perdu son épouse, etc. C'est quelque chose, effectivement. D'ailleurs, c'est une expression... Vous avez raison, maintenant que vous le dites, qui est assez surprenante d'une certaine manière. Je ne sais pas comment elle est née, cette expression. Mais effectivement, vous avez commencé en disant cela tout à l'heure, on perd un porte-clés, on perd un iPhone, mais c'est rendre l'humain à quelque chose, à le chosifier d'une certaine manière.
Voilà, c'est sans doute parce qu'on a évoqué la notion de perte, hein, qui est quelque chose de très important et qui bouscule énormément un être humain quand il s'agit de la perte d'un autre être humain, hein, d'un enfant, d'un parent, d'un ami, voilà. Mais et en fait, il n'y avait pas de mots jusqu'à présent, je pense, parce que il n'y a pas de mots. Françoise Dolto, elle disait le non-dit est ce qu'il y a le plus vulnérant. Hein, quand on ne nomme pas, c'est encore plus vulnérant. Et moi, j'avais le sentiment que c'était un peu la double peine. C'est-à-dire que même pour remplir un document administratif, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mot. Je ne sais pas comment remplir un document administratif. Comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Catherine, je crois, je ne sais plus, entre Catherine et Nicole. Voilà, comment dire, voilà, j'ai 3 enfants, j'ai 2 enfants, on ne peut pas en enlever un, et pourtant, il n'est pas avec nous physiquement, c'est compliqué. Si au moins, on nous enlève cette difficulté-là, quand on a juste à remplir un document, moi, je pense qu'effectivement, ça n'est pas « bonjour, madame, vous êtes parent-ange » ou « bonjour, monsieur, je suis parent-ange ». C'est pas de cet ordre-là. C'est simplement d'avoir une place dans la société, parce que tout le monde est d'accord pour dire que ce que on vit est quelque chose. Enfin, tout le monde le dit, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Voilà, c'est ce que les gens.
Merci, Yveline. Merci de ce témoignage là encore, et merci et bon courage à vous, parce que cette blessure, évidemment, elle n'est jamais refermée.
Bon courage à tous ceux qui sont dans ma situation aussi. Et bon après-midi à vous, très bonne émission.
Merci beaucoup, Yveline. On va marquer une dernière pause et puis on essaiera d'avoir un sujet un peu plus léger pour terminer. Et notamment la neige sur la plage à Saint-Nazaire. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Françoise est là, elle habite Saint-Nazaire, c'est à 2 pas de la Baule, ça jouxte. Et Françoise, oui, elle est sur la plage parce qu'il neige.
Oui, j'en reviens. Bonjour Pascal. Oui, j'en reviens.
Vous avez fait donc
Il fait un froid de canard,
J'aime bien cette expression, froid de canard.
Ah oui, oui, mais j'avais les doigts gelés en rentrant. J'habite à 2 minutes de la plage.
La plage de Saint-Nazaire.
Donc, de Saint-Nazaire, oui, j'habite dans le triangle d'or de Saint-Nazaire. Et puis, donc j'attendais que la neige s'arrête, puisqu'il a neigé toute la matinée. Et c'était déjà magnifique, parce que c'était immaculé, c'était beau. Et puis donc, dès que la neige s'est arrêtée, j'ai enfilé mes bottes. Et je suis allée faire un tour, mais je ne suis pas restée longtemps. J'ai pris quelques photos, et c'est magnifique. Mais la mer est grise, il y avait un bateau qui passait au loin, c'était superbe.
Vous habitez à Saint-Nazaire depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans, en fait, je suis native du coin, mais j'ai vécu toute ma vie à Paris, j'ai travaillé à Paris, et puis j'ai fait des petites incursions dans d'autres pays, je suis partie, j'ai vécu 2 ans au Québec, j'ai vécu 4 ans au Baléares, et puis je suis revenue m'installer à Saint-Nazaire, qui est le pays de mes ancêtres.
D'accord, donc vous n'avez pas de souvenir de neige à Saint-Nazaire, c'est la première fois que vous la voyez.
Oui, c'est la première fois que je la vois. Et puis ça, moi qui ai vécu au Canada, la neige, c'est un vrai bonheur pour moi.
Bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui se balade dans les rues de Saint-Nazaire en ce moment. Ah bon? Non, mais en voiture, je vais dire.
Ouais, oui. Non, il y a plein de gens sur le front de mer qui prennent des photos. Parce que c'est
ce que vous avez fait, et peut-être vous pouvez nous les envoyer d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission.
Je peux vous les envoyer.
Avec un smartphone, j'imagine, vous avez pris ces photos.
Écoutez, c'est pas de la grande photo. Mais
non, attendez, ça nous permettra de voir. La mer était haute ou la mer était basse?
La mer était haute. Il y avait la plage était quand même couverte de neige, mais je pense qu'à la Baule, ça devait être encore plus beau. Mais là, j'ai pas voulu prendre la voiture parce que ça doit quand même être assez dangereux.
Merci beaucoup Françoise, vraiment merci de votre témoignage. On a un dernier... Comment ?
Ça m'a fait plaisir de vous parler.
Écoutez, c'est gentil Françoise, merci beaucoup. On a encore quelques secondes.
Je vous en prie.
Parce que tout à l'heure, c'était Christelle Rebière qui disait qu'on pouvait avoir honte de prendre l'avion. En tout cas, Greta Thunberg nous pousse à avoir ce sentiment. Et Julien, qui est là, qui habite ici les Moulineaux, je voulais savoir s'il avait honte également de prendre l'avion.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Eh bien effectivement, non, je n'ai pas du tout honte de prendre l'avion. Vous avez fait une très belle transition. Effectivement, Greta Thunberg, une militante écologiste qui fait de la politique concrètement. Donc évidemment, juste pour faire un petit rappel, vous vous souvenez quand elle était allée, vous savez, aux Nations Unies là, à New York pour faire son discours sur l'écologie.
Bien sûr.
Elle avait voulu, vous souvenez, y aller en voilier, vous savez, en bateau, là, à peu près pendant 2 semaines. Bon, sauf que les gens qui ont ramené le voilier de New York, ensuite eux, ils sont évidemment allés en avion. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc encore une fois, tout ça, c'est de la politique. Il n'y a pas vraiment de concret.
La politique, c'est du concret. Elle a le droit de faire de la politique et de faire avancer ses idées.
Oui, elle a le droit, Pascal. Vous êtes sincère. Vous aimez le concret. Je veux dire, concrètement, aujourd'hui, il n'y avait rien de concret là-dedans. Des discours concrets aujourd'hui sur l'aviation, on pourra en parler. Bon, là, on est en fin d'émission, si vous voulez. Mais on pourrait faire une émission entière là-dessus. C'est de dire concrètement qu'est-ce qui a été fait pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et des choses ont été faites, notamment sur la réduction de la consommation dans les moteurs. Je dis ça parce que je suis par ailleurs un grand passionné d'aviation et je vole assez souvent, donc je pourrais vous en parler. On a réduit beaucoup la consommation des moteurs, le poids des objets également à bord, donc l'emport également, donc on emporte moins de carburant. Les pilotes font ce qu'on appelle de l'éco-pilotage, c'est-à-dire c'est tout un tas de procédures qui permet aussi en vol et également au sol de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de moins consommer. Donc il y a tout, si vous voulez, pas mal de mesures qui ont été prises et qui vont continuer à être mises en œuvre pour justement réduire ce secteur. Et je pense aujourd'hui que les auditeurs de RTL et même en général ne doivent pas spécialement avoir honte de prendre l'avion. Je crois surtout qu'il faudrait surtout les informer davantage, faire venir davantage, si vous voulez, d'experts, comme ce que j'essaye de faire là aujourd'hui, pour sensibiliser et expliquer réellement ce qui a été fait.
Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on fait toujours entendre les mêmes personnes. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean de Kervazdoué. C'est pas n'importe qui. Il a été directeur de la santé sous Pierre Mauroy. Donc, c'est plutôt un homme de gauche. Qui vient d'écrire un bouquin, Les écolos nous mentent. Jean de Kervazdoué. Mais il est invité nulle part. Moi, j'ai découvert son bouquin dans Le Point, pour tout vous dire. Ouais. C'était très intéressant, d'ailleurs, de lire ce livre. Alors, je sais pas s'il a raison, s'il n'a pas raison, mais c'est vrai que souvent, il y a une sorte de pensée unique qui se met en place sur l'écologie et on aimerait entendre parfois des avis différents.
Donc, c'est la bien-pensance, juste pour terminer, parce qu'elle concerne la bien-pensance, et voilà, il faut penser comme ça. Voilà. Je rappelle juste pour terminer 30 secondes que quand même le 3 octobre dernier, vous en avez parlé, mais on l'a peut-être oublié, vous savez, il y avait une manifestation là sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, vous savez, où des militants écologistes avaient été arrêtés parce qu'ils avaient réussi à pénétrer sur le tarmac de Roissy pour s'insurger sous les ailes d'un avion et pour justement demander l'interruption du T4, vous savez, de ce qui a été annoncé ce matin, donc à Roissy-Charles de Gaulle. Mmh. Et vous savez, à ces manifestations ont participé notamment Mathilde Panot de la France Insoumise, Manon Aubry et Clémentine Autain. Donc je crois aussi qu'il faut dire, et il faut aussi que les gens sachent, que les politiques aussi pour lesquelles ils votent soutiennent ce genre d'action. Ils sont par ailleurs illégales.
Non mais ils ont raison. Ouais. Que chacun fasse de la politique, moi ça me gêne pas. Simplement, que les gens qui en font n'avancent pas masqués. Voilà, et ouais, ça d'accord. C'est intéressant. Donc, vous pouvez aller lire ce livre, je vous le recommande, parce que pour se frotter le cerveau, comme disait je ne sais plus qui, Jean de Kervazdoué, Les écolos nous mentent, c'est assez intéressant de lire. Merci en tout cas, Julien, merci de votre intervention.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Il y a toujours un grand moment. Certains disent le meilleur. C'est quand je ne parle plus.
C'est vous.
Et lorsque l'ami Laurent Tessier arrive à la fin de l'émission et fait le débrief.
Quelle arrivée dans le studio! Alors ce matin, en conférence de rédaction.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans l'actualité aujourd'hui.
Ouais, alors quel appel à témoignages pouvons-nous lancer aujourd'hui?
Si vous habitez La Baule, la plus belle plage d'Europe, 9 km de sable fin, eh bien, sur ces 9 km aujourd'hui, il y a 9 km de neige. Ça arrive une fois tous les 30 ans. Donc si vous habitez La Baule, appelez-nous!
Paris risqué, mais Michel a répondu présent en 32-10.
À La Baule, 5 cm de neige.
Non !
Et si.
Formidable, La Baule sous la neige, ami.
Et il n'y a pas que Michel, Paul également.
Bah écoutez, on répond à votre appel.
Bah oui, moi je...
Mais oui, mais ce sujet avait un seul but, écouter une chanson, on a bien compris.
Tomber la neige de Adamo devrait faire son apparition très rapidement, parce que moi je préfère écouter Adamo.
Tombe la neige.
Et c'est cadeau pour vous, Pascal. Tombe la neige. Et j'ai beaucoup aimé ce midi la franchise de Catherine.
Je suis rarement d'accord avec vous. Hein,
c'est vrai.
Mais je vous adore quand même.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je suis rarement d'accord avec moi-même.
Première révélation, premier compliment. Autre chose, Catherine.
Il y a des choses toutes simples où vous avez l'air de ne pas les connaître. Et je me dis, mais enfin, attends, mais il a 15 ans. Il a quel âge, quoi? Je ne comprends pas.
Mais je ne connais pas.
Alors
tout.
Je me dis, peut-être il fait exprès.
Ah, parfois, je fais exprès.
Ça c'est fait. Une dernière remarque à Pascal, Catherine.
Naïf.
Je suis naïf. Ah ça c'est quelque chose que j'imaginais pas. On m'a rarement dit que j'étais naïf, figurez-vous.
Ah bah c'est ça, oui.
Bon, vous êtes habillé pour l'hiver, mais allez, ne partons pas fâchés, bien au contraire.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler de temps en temps pour qu'on s'énerve comme ça habituellement?
Voilà, ok, d'accord. Dès que vous allez m'énerver, je vais vous appeler.
Exactement. Je peux vous donner mon portable direct si vous voulez. Comme ça.
Une belle histoire à suivre, mesdames et messieurs, dans quelques instants, dans quelques jours. Mais surtout, votre film préféré cette semaine. La battle entre Greg Caradoni, notre réalisateur, et vous, Pascal. Nouvel épisode.
Paul est un bolloir réfractaire aux éoliennes.
C'est moche, les éoliennes. Je vais vous mettre des éoliennes devant chez vous. Vous allez voir comment vous allez être dans l'état dans lequel ça va vous mettre, cher monsieur Caradoni.
Ah là là, non, trop, c'est trop pour Greg. Il vous attaque alors quelques minutes plus tard.
Pour acheter des fleurs, c'est déjà ça.
Des chocolats.
Oh, faut pas attendre la Saint-Valentin pour acheter des fleurs.
Alors, écoutez-vous, vous rentrez les pieds, vous mettez les pieds sous la table et vous faites bosser votre femme. Alors, s'il vous plaît.
Comment réagira Dark Greg demain? Quelle punchline balancera Maître Pascal, dit le Yoda parisien? Verdict demain dans l'émission. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec le conseil du jour. Résiste.
À chaque fois que Flavie entre dans le studio, on a l'impression que c'est un karaoké.
Mais bien sûr. Bien sûr, mais attendez. Flavie est magnifique aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Non, mais ça c'est pas possible.
C'est vrai que c'est ce qu'il a dit.
Mais tous les jours. Allez, c'est à bien. Tout de suite. Ram.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.